Laetitia, à 24 ans, fut conviée avec ses acolytes à faire la première partie de Metallica à Bercy. Les pneus le vécurent comme un aboutissement. Metallica, c'était la gloire, la classe. Avoir convaincu un groupe aussi génial de jouer le rôle d'apéritif à leur concert parisien les pulvérisa. Au sens propre, hélas, leur prestation ne se passa pas bien. Le public, impatient d'accueillir ses idoles, siffla les trois jeunes gens. Rien de rare à cela, mais les pneus, très déstabilisés, commirent de nombreuses erreurs. Cette contre-performance ne plaida pas en leur faveur. L'événement, qui était censé les lancer, plomba leur carrière. Ils n'eurent jamais accès ni à d'autres premières parties, ni à des salles prestigieuses. Les pneus devinrent l'un de ces groupes que l'on entend dans d'obscurs festivals. C'est là qu'ils se révélèrent admirables. Ils inversèrent la malchance. Au lieu de chercher inutilement la célébrité, ils furent des artistes pour Happy Few. Ils n'avaient que 300 fans, mais ceux-ci auraient donné leur vie pour assister à leur 25e concert à Montceau-les-Mines. Surtout, les pneus ne perdirent jamais la foi. Quand leurs finances les alarmaient, quand la conjoncture empirait, quand le public d'un soir les dédaignait, ils concluaient invariablement par « on les aura ». Si ce n'était un pléonasme, on pourrait qualifier les pneus de jusqu'au boutiste de l'amor fati. Tristan était au nombre des Happy Few. Elle trouvait que les pneus ne cessaient de progresser. Elle avait raison. Leurs textes étaient de plus en plus forts, leur jeu s'affinait. Laetitia prévint sa sœur que les pneus donneraient un concert dans la salle la plus pourrave de Paris, le Tétard, non loin de la station Rome. « On n'a plus joué à Paris depuis Metallica. On veut prouver qu'on n'est pas superstitieux. »«
Bravo. »«
On peut loger chez toi. On n'a pas de quoi se payer l'hôtel. »«
Bien sûr. Marin et toi dans le clic-clac. »«
Et Célestin avec toi dans ton plumard.
»« Pas de problème. » conclut Tristan qui se demandait pourquoi sa sœur avait une drôle de voix.
La performance des pneus dépassa leur propre sommet. 400 personnes entassées au Tétard atteignirent l'extase la plus pure de l'histoire du rock. Tristan se souvint des paroles de M. Turtel. Laetitia, 30 ans, était devenue sa grande sœur. Elle grattait et chantait avec plus de charisme que jamais. Elle incarnait sa musique, vivait son texte. On ne pouvait départager sa beauté de sa laideur, sa délicatesse de sa sauvagerie. C'était peu dire que Tristan était fière d'elle. Elle exultait. La fête qui suivit fut longue, mais on finit quand même par se retrouver à Noisiel, dans le petit appartement. Tristan se félicita d'avoir déjà déplié le clic-clac. Marin et Laetitia s'écroulèrent dessus et s'endormirent aussitôt. Elle ne broncha pas quand Célestin se déshabilla pour entrer dans son lit. Lorsqu'il l'attrapa dans ses bras, elle se permit de protester. « Ne gâche pas un tel triomphe. »«
Tristan, je suis fou de toi depuis que j'ai 13 ans. »
Tu es un enfant.
J'ai 30 ans et toi 35.
Deux bassistes ensemble, ça n'a pas de sens.
Au contraire, le bassiste, c'est l'autiste de la bande. Deux autistes ensemble, c'est le meilleur risque à courir.
Célestin se révéla l'amoureux idéal. Il était tellement déboussolant que Tristan ne pouvait pas le comparer. Il avait le talent de transformer tous ses accès de négativité.
Toi et moi, c'est pas possible.
Tu as raison, c'est trop bien.
J'en peux plus de cette impression que ça va finir la minute d'après.
Inventons l'impression que ça va finir la seconde d'après. Ce sera encore meilleur.
Avec toi, je ne vis pas, je survis.
Trop cool. C'est du darwinisme amoureux.
Comme ils ne vivaient pas ensemble, elle pouvait prendre du recul en son absence et se rendre compte qu'il lui manquait. Au fond, cette histoire lui convenait à merveille.
Un détail la chiffonnait. Elle appela Laetitia.
Tu avais prévu que Célestin serait avec moi ?
Non, je l'ai espéré.
Depuis quand ?
Pas longtemps.
Elle mentait.
15 ans plus tôt, elle avait sélectionné le bassiste en pensant à sa sœur. Jamais l'intéressée n'eût pu si bien choisir pour elle-même. Tandis que la petite sœur qui la connaissait et l'aimait tant en était capable. Elle avait misé sur le long terme sans en parler à personne et se réjouissait du résultat. Pour un peu, elle se serait presque réjouie de leur relatif insuccès. Si les pneus étaient devenus l'un de ces groupes célèbres qui voyagent de capitale en capitale, peut-être cette affaire eût-elle été impossible.
Mais quand on va du festival de la Goulafrière, 165 habitants, au Metropolitan du Puy-en-Velay, avoir une amoureuse en banlieue parisienne n'a rien d'inenvisageable. L'année suivante, Florent mourut dans un accident de voiture. Tristan et Laetitia pleurèrent ce père de tout leur cœur. Veuve à 65 ans, Nora s'effondra. Elle vendit la maison où elle avait vécu heureuse pendant 40 années et acheta une bicoque inaccessible à 100 km de là, dans un bled qu'aucune gare ne desservait. Ainsi, elle était sûre que ni sa sœur ni ses filles ne pourraient lui rendre visite. Ce qui ne l'empêcha pas de les appeler chaque semaine pour se plaindre de leur indifférence à son sujet. « Vous ne venez jamais me voir. » Frappées de remords, les trois femmes, compatissantes, louèrent un véhicule pour aller voir leurs parentes esseulées. Celle-ci les reçut aussi mal que possible. « Alors on vient me surveiller ?»«
Comment vas-tu, ma sœur chérie ?»«
Mieux que toi. Je ne suis pas un boulet pour la société, moi. Je n'ai pas trois enfants fachos. »«
Tu veux qu'on s'en aille, maman ?»
demanda Laetitia. « Vous en avez déjà assez de moi, pas vrai ?» La cambuse était encore plus sinistre que prévu. « Pourquoi as-tu choisi cette maison, maman ?»«
Ça ou autre chose ?»
répondit-elle. Non, justement, on sentait qu'elle s'était donné du mal pour trouver une demeure à ce point odieuse, difficile d'accès et inconfortable.
« Il n'y a aucune photo de Florent !»
remarqua Bobette. « Retourne le couteau dans la plaie ? J'évite de penser à lui, ça me fait trop mal. »
« Tu as pourtant connu l'amour que tout le monde espère. »
« Oui, eh bien, mon mari est mort. »
« Les 40 années que tu as passées avec lui, tu n'essayes pas de t'en souvenir ?»«
Je vais de l'avant. » Les trois visiteuses se regardèrent. « Regarder la télévision toute la journée, tu appelles ça aller de l'avant ?» déclara Tristan.
« Ta tati Bobette que tu vénères ne fait que ça depuis toujours et moi, je n'aurais pas ce droit ?»« Si ça te rend heureuse !»
intervint Bobette. « Heureuse ? Quelle idée !
Tu es heureuse devant ta télé, toi ?»« Oui ! La télé, c'est ma copine !»
Pauvre fille.
« Maman, tu as fini d'être infecte ?»
interrogea Laetitia.
« Insulte ta vieille mère. Tu n'arrêtes pas de te poser en victime, tu ne t'intéresses absolument pas à nos vies.
Ta carrière de chanteuse has-been, et toi, la binoclarde, ton boulot sans intérêt. Bobette, as-tu recommencé à boire ? Vous voyez que je m'intéresse à vous. »
Atterrées, les trois femmes se levèrent et partirent. Pendant le trajet du retour, elles évitèrent de parler. Tristan se rappela les considérations de M. Turtel sur l'amour défaillant de ses parents. Était-ce cela qu'il voulait dire ? Pour la première fois, elle essaya d'imaginer ce qu'eût été l'existence de sa mère si elle n'avait pas rencontré son père. Elle vit que Nora s'était construite autour d'une déficience essentielle. Un accident merveilleux l'avait mise en présence d'un homme qui avait vu en elle quelque chose de beau. Cet amour avait étayé son vide pendant 4 décennies. Il lui avait tenu lieu de matière. Nora, on l'avait oublié son vide fondamental. Et à présent, elle se retrouvait face à lui, sans savoir comment l'affronter. Si Célestin mourait, Tristan savait qu'elle souffrirait le martyr, mais elle n'éviterait pas de penser à lui. Au contraire, elle lui parlerait en elle sans discontinuer. La mort n'était pas la cessation de l'amour. Quelques jours plus tard, Tristan rassembla son courage et téléphona à sa mère. Elle lui avoua que depuis la mort de Cosette, leur dialogue ne s'était jamais interrompu. « Essaye de parler à papa. Ça me fait trop mal. Tu souffres de toute façon. Laisse-moi souffrir de la manière que je veux. » Le lendemain, tati Bobette l'appela.
Nora s'est suicidée. Elle a ouvert le gaz, l'odeur a fini par alerter les voisins, les pompiers l'ont retrouvée morte ce matin. Elle a réussi le suicide que j'ai raté.
Abasourdi, Tristan ne parvint pas à pleurer. Elle avait l'impression qu'un coup de matraque lui tombait sur la tête en permanence. Quand elle sortit de sa sidération, le facteur lui apporta une lettre de sa mère. « Cher Tristan, lorsque tu recevras ce courrier, je serai morte. C'est toi qui m'as suggéré cette solution. Puisque tu communiques mieux avec les défunts qu'avec les vivants, je sais ce qu'il me reste à faire. À bientôt, maman. » Cette signature affectueuse était une abomination de plus. C'est toi qui m'as suggéré cette solution. Comment sa mère en était-elle arrivée à lui vouloir tant de mal? Elle pleura. Mais il s'agissait de larmes de colère. Elle appela Laetitia pour lui annoncer la nouvelle, sans évoquer le courrier qu'elle venait de lire.
« Putain, elle aura fait chier jusqu'au bout !» dit Laetitia.
« Je m'occupe des formalités, » dit Tristan, vu que ni Tati Bobette ni la sœur n'en avaient les moyens. C'est elle aussi qui prit contact avec le notaire. La succession était empoisonnée. Au moins, on n'y flairait aucune préméditation maternelle. Pour s'acquitter des droits de succession, il fallut vendre la maison du drame. Tristan craignit que personne n'en veuille. La bicoque, mal située, vétuste, sinistre, dégageait en plus l'aura du suicide de son occupante précédente. Qui pourrait désirer y vivre? Une vieille dame la contacta, disant que cette maison lui plaisait. Tristan retint son souffle. Le marché fut conclu. La dame finit par lui avouer sa motivation.
« Ma famille me déteste. Mes enfants ne viendront jamais me voir ici. Je serai tranquille. »
Tristan songea que sa mère avait probablement dit la même chose à l'ancien propriétaire de ce lieu maudit.